ce soir à Tribune Libre, le premier ministre du Québec, l'honorable Paul Sauvé, donne une conférence de presse. Le 11 septembre dernier, l'honorable Paul Sauvé devenait premier ministre de la province de Québec, succédant à feu l'honorable Maurice Duplessis. Son premier geste d'importance fut de participer à la conférence sur les relations fiscales entre Ottawa et les provinces. Les subventions aux universités du Québec tiennent la manchette des journaux depuis ce temps, et samedi soir dernier, le premier ministre annonçait une nouvelle politique de financement pour celle-ci. La session provinciale approche. Les projets doivent être nombreux. Comme l'honorable Paul Sauvé a affirmé vouloir diriger en bon père de famille, les directeurs de journaux seront bien à l'aise pour poser au premier ministre les questions qui vous viennent à l'esprit. Le docteur Louis-Philippe Roy, rédacteur en chef de l'Action catholique à Québec, M. Gérard Filion, directeur du journal Le Devoir à Montréal, M. Camille Lheureux, rédacteur en chef du journal Le Droit à Ottawa, vont donc interroger l'honorable Paul Sauvé, premier ministre de la province de Québec. Monsieur Pierre de Bellefeuille dirige cette conférence de presse.
Monsieur Sauvé n'a pas attendu de passer à tribune libre pour commencer à répondre aux questions qu'on peut lui poser. Mais les journalistes, par profession, sont des poseurs de questions et je pense qu'ils en ont encore beaucoup dans leur sac. Est-ce que vous voudriez commencer à poser la première question, Dr. Roy?
Depuis votre avènement au poste de premier ministre, vous avez multiplié déclarations et décisions qui concordent nettement avec les conclusions de la commission Tremblay. En fin de semaine, notamment, vous avez fait une allusion directe à cette enquête. Avez-vous l'intention de pousser plus loin l'application des recommandations Tremblay, en particulier dans le domaine de l'aide aux universités et aux commissions scolaires?
Il est assez extraordinaire que, quand on parle depuis plusieurs mois du rapport de la commission Tremblay, on s'en sert habituellement pour souligner au gouvernement les recommandations de cette commission qui n'ont pas encore été mises en application. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant que l'on se donne la peine de lire complètement le rapport de la commission Tremblay et l'on verra qu'il y a déjà plusieurs de ces recommandations qui ont été appliquées, qui ont été mises en application. Il y en avait même au moment où le rapport a été publié, qui était en voie d'être mis en application. Et il y en a plusieurs qui, depuis ce temps-là, ont été réalisés. Je ne voudrais pas donner l'impression que je prends ce soir l'engagement d'appliquer dans un avenir prochain toutes les recommandations de la Commission Tremblay. Mais il y a certainement un bon nombre de ces recommandations qui méritent une étude sérieuse et qui méritent aussi une application.
Monsieur Sauvé, est-ce que vous avez l'intention de déposer le rapport Tremblay à la Chambre, à Québec?
Bien, le rapport Tremblay est disponible déjà depuis plusieurs mois. Et toute personne qui veut se le procurer peut le faire en s'adressant au gouvernement à Québec. Et nous ferons un plaisir de le faire parvenir.
Monsieur Filion, voulez-vous poser la question suivante?
Oui, bien volontiers. Vous avez annoncé l'autre soir à l'université un plan de financement qui, je pense, aidera sensiblement à équilibrer les finances des universités et assurera le développement normal de ces institutions. Les commissions scolaires sont, pour un grand nombre, dans une situation assez précaire. Plusieurs ont des déficits annuels de l'ordre de dizaines et souvent de centaines de milliers de dollars. Est-ce que le gouvernement que vous présidez a l'intention de trouver un moyen d'assurer aux commissions scolaires des ressources financières stables, leur permettant de préparer un budget qui soit équilibré et qui évite aux commissaires d'école d'aller périodiquement à Québec pour solliciter des octrois spéciaux pour combler des déficits qui ont été accumulés durant les années précédentes?
Vous posez là, M. Filion, une question qui comporte plusieurs aspects, une question qui soulèvera une longue discussion si j'essayais de l'approfondir avec vous ce soir. Les commissions scolaires, dans un bon nombre de cas, ne peuvent pas, par leurs propres ressources, équilibrer leur budget. Et c'est pour ça que, déjà depuis plusieurs années, le gouvernement de la province verse plusieurs millions à chaque année pour les aider, par exemple, à payer les primes de traitement aux professeurs, ce qui leur a permis d'augmenter considérablement le niveau des salaires des professeurs. Nous payons aussi à chaque année un bon nombre de commissions scolaires dans la province de Québec sur présentation de leur bilan, des octrois qui leur permettent d'équilibrer leur budget. Quant à passer une législation qui assure définitivement aux commissions scolaires les ressources qui leur sont nécessaires pour équilibrer par elles-mêmes leur budget, je pense bien qu'il nous faudra attendre que nous sachions exactement jusqu'à quel point le gouvernement fédéral consentira à reviser sa conception actuelle du partage des champs de taxation. À la conférence à Ottawa la semaine dernière, on nous a dit qu'il y aurait une conférence plénière, une conférence des premiers ministres de la Confédération, vers le milieu de 1960, et que l'on nous donnera peut-être à ce moment-là une indication des dispositions du gouvernement fédéral. Il ne faut pas oublier que 9 provinces sur 10 ont signé un engagement, non pas avec le gouvernement actuel, mais avec son prédécesseur à Ottawa, pour jusqu'en 1962. Et tant et aussi longtemps que de leur plein gré, les provinces auront accepté un état de fait, comme celui qui existe à l'heure actuelle, nous, de la province de Québec, nous sommes un petit peu captifs de leur attitude et nous devrons attendre leur ajustement et qui sera discuté avant l'échéance de 1962.
Mais ce que je veux souligner, c'est ceci. Ce n'est peut-être pas le montant total qui est versé aux commissions scolaires qui est insuffisant. Je reconnais très volontiers, d'ailleurs je l'ai écrit à plusieurs reprises, le département d'instruction publique accorde aux commissions scolaires des montants très considérables. Mais les méthodes de distribution seraient peut-être à reviser, de façon à ce que l'on n'incite pas les commissaires d'école à être imprévoyants, à faire des déficits avec l'idée ensuite d'aller solliciter des octrois spéciaux du gouvernement.
J'ai fait, je crois, une déclaration il y a quelque temps. Je l'ai fait général, s'appliquant à tous les problèmes de l'administration provinciale. J'ai déclaré mon intention bien ferme d'examiner les problèmes qui nous sont soumis de façon objective, en tenant compte des réalités dans lesquelles nous vivons, et j'ai déclaré en même temps que j'avais horreur des solutions temporaires qui nous forcent à reconsidérer le même problème 4 ou 5 fois. Je cherche les solutions qui règlent définitivement le problème. Et dès que toutes les données de ce problème particulier que vous mentionnez seront devant moi, j'aviserai à ce moment-là.
Monsieur Lheureux?
On a dit en certains milieux, monsieur le premier ministre, qu'il y avait quelque chose de changé à Québec dans l'attitude du gouvernement par rapport à celui de monsieur Duplessis. Cette assertion répond-elle, correspond-elle à la réalité ou non?
Bien, je ne sais pas, si parlez-vous des problèmes administratifs en façon, général ou d'un problème
d'une en façon plus précise, je vous demanderais, est-ce qu'il y a changement sur le plan des relations fiscales de votre gouvernement avec le gouvernement fédéral ou au sujet des subventions fédérales universitaires?
Je pense que la meilleure façon de vous répondre, ce serait de répéter bien sommairement ce que j'ai dit sur ce point-là à Ottawa même au cours de la dernière conférence. J'ai dit que la province de Québec, en octobre 1959, c'était la même province de Québec qu'en juillet 1959, et c'était même, sur la question des principes qui sont en jeu, la même province de Québec qu'en 1865, quand à la suite de la conférence de Québec, Sir John Macdonald déclarait à la législature du Canada, comme on l'appelait dans le temps, que si nous devions avoir un système de confédération plutôt qu'un système d'union législative, cela était dû à la position particulière qu'occupait la province de Québec dans l'ensemble du Canada. Et j'ai dit à ce moment-là, ce n'est pas la mort ou la naissance d'un homme qui fait que la province de Québec soit différente. Ce sont les vérités historiques que nous connaissons tous qui établissent que la province de Québec a un caractère différent. La voix de Québec peut avoir changé, son ton peut avoir changé, mais la province n'a pas changé.
Comment, en résumé, monsieur le premier ministre, concevez-vous les relations fiscales, les relations plutôt générales de votre province avec le gouvernement fédéral et dans quel climat entendez-vous les conduire tant que vous serez premier ministre?
J'entends dans chaque question prendre une attitude positive et m'appliquer à rechercher la solution. Nous vivons dans la Confédération canadienne, nous avons des responsabilités, nous avons des droits. Nous insistons pour que ces droits soient reconnus, que nous puissions les exercer librement. Nous n'avons jamais fui une responsabilité, nous entendons les porter toutes. Et parmi ces responsabilités, il y a celle de tenter de faire fonctionner la Confédération canadienne. Et je pense que chaque fois qu'une difficulté se présente, nous devons d'abord la discuter dans le calme, rechercher une solution qui soit compatible avec les droits essentiels de la province de Québec.
Monsieur le Premier ministre, le congrès général de l'UCC, qui a eu lieu l'autre jour à Victoriaville, a passé, d'ailleurs pour la deuxième année consécutive, une résolution favorisant l'établissement d'un plan d'assurance santé. Les cultivateurs, vous le savez, ce n'est pas des révolutionnaires. Alors, si les cultivateurs sont en faveur d'un plan d'assurance santé qui respecte les prérogatives particulières de la province de Québec, est-ce que votre gouvernement a l'intention de donner suite à l'idée, à la suggestion dans un avenir plus ou moins rapproché?
J'ai eu l'occasion de dire à la conférence de presse que l'on m'a demandé de donner à Ottawa que je n'avais aucun préjugé, aucune objection de principe à l'établissement dans la province de Québec d'un plan d'assurance santé. Dans le cadre où nous sommes ce soir, il serait trop long de vous énumérer les difficultés qui apparaissent à ce moment-ci et qui résultent du fait que nous avons dans la province de Québec un système d'hospitalisation différent de celui des autres provinces. Je l'ai dit, il y a trois sortes d'hôpitaux chez nous. Il y a celles qui sont la propriété du gouvernement, celles qui sont administrées par des corporations formées de laïcs et celles qui sont la propriété et qui sont administrées par des congrégations, par des communautés religieuses. Il y a en plus de cela le fait qu'à l'heure actuelle, nos hôpitaux se trouvent dans une situation que j'ai grande difficulté à comprendre, je le confesse. C'est un des problèmes où je ne vois pas encore le jour à travers les complications. Nous avons des hôpitaux qui ne représentent qu'un lit d'hôpital coûte, coût d'opération, de 18,5 $ à 23 $ par jour. C'est le coût, ça. Que l'on me représente. Si cela est vrai, et si l'on veut être logique, il faudra remonter le taux d'assistance publique qui est pour la classe A1 à l'heure actuelle de 11,5 $ à 23 $ par jour, ce que la province n'a pas les moyens de faire dans le moment. Et je pense qu'il nous faut faire un examen très sérieux, non seulement de nos ressources hospitalières, mais en même temps du système d'administration de nos hôpitaux, de leur système de financement, avant de nous engager dans un plan dont nous ne verrions pas toutes les conséquences. Je l'ai déjà déclaré, j'ai une répugnance naturelle à entreprendre un projet avant d'en voir toutes les implications et avant de savoir exactement où il me conduit. J'ai l'intention, je puis vous le dire en toute franchise ce soir, j'ai l'intention, dès le début de la session, de proposer une législation qui sera de nature, je pense, à nous fournir les données nécessaires pour pouvoir discuter l'application chez nous d'un plan d'assistance santé qui soit compatible avec notre système d'hospitalisation, nos traditions, nos besoins et nos moyens.
Vous estimez que le plan actuel, offert par le fédéral, ne répond pas à ces exigences?
Dans sa forme actuelle, j'en doute fort. Et je suis en cela supporté par un rapport qui m'a été fait par des officiers que j'ai envoyés dans d'autres provinces de la Confédération au cours des derniers mois à la suite de la signature de l'entente sur l'assistance chômage. Comme dans la plupart des provinces, ce sont les mêmes autorités qui administrent les deux plans, le plan d'assurance santé et le plan d'assistance chômage, mes officiers ont rencontré ces officiers des autres provinces qui leur ont dit « Vous êtes chanceux de ne pas vous être embarqué », c'est leur expression, dans ce plan-là. Et attendez, n'y allez pas trop vite. Nous avons des complications que nous n'avons jamais prévues.
Dans l'étude d'une question compliquée comme celle-là, M. le Premier ministre, et de beaucoup d'autres questions, il va vous falloir compter sur le fonctionnarisme provincial. Or, à Québec, dans le fonctionnarisme, on entend dire que depuis que vous êtes devenu Premier ministre, le moral est à la hausse, on s'attend à des augmentations de salaire. Le Dr Roy connaît ça mieux que moi, je pense, vous voulez.
Oui, J'ai eu beaucoup d'écho de cette déclaration-là, comme journaliste à Québec. Et quand on a su que ce soir, nous aurions le plaisir et l'honneur de vous rencontrer, on m'a suggéré de vous demander si vous n'auriez pas quelques précisions à apporter sur votre déclaration de l'autre jour.
Bien, le deuxième geste que j'ai posé après mon assermentation, environ une demi-heure après mon assermentation, le premier, c'était la proclamation d'une période de deuil. Et le deuxième, c'était de faire venir M. Laforce, qui est le président et qui est la commission du service civil à Québec, et de lui demander combien cela prendra de temps pour compléter la classification qui est entreprise déjà depuis plusieurs années. Je ne vous dirai pas la date qu'il m'avait fixée, je lui ai donné, il était question de fête là-dedans. Alors j'ai dit, si vous voulez une fête comme date limite, ben disons la Toussaint qui est le 1er novembre, et je m'attendrai d'avoir la classification complétée pour la Toussaint.
Il a choisi le jour des morts, non?
Non. Je pense que c'est, pour beaucoup de gens, ça va être le jour des vivants. J'ai eu l'affirmation la semaine dernière que nous aurions peut-être, pour la séance du Conseil de mercredi après-demain, la classification complétée de façon à ce que l'ordre en conseil puisse être passé et que les rajustements de salaire qui sont la conséquence logique de cette nouvelle classification puissent prendre effet à la paye qui sera faite le 15 de novembre.
Et le ministre des Finances est d'accord?
Le ministre des Finances fronce parfois les sourcils. Seulement, je dois dire que je le soupçonne même d'avoir le cœur parfois plus grand que le trésor.
Ah bon?
Alors, il n'y a pas trop de difficultés de ce côté-là.
Est-ce que vous avez l'intention de compléter les cadres de cette commission du service civil?
C'est fort possible. C'est fort possible. Maintenant, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une augmentation de salaire sur une base de tant pour cent à travers le service civil. Il s'agit d'une classification qui sera établie après qu'une évaluation des tâches ait été faite et qui classifiera réellement le service civil de façon définitive.
Monsieur Lheureux.
Monsieur le Premier ministre, on a parlé de problèmes financiers. Je voudrais parler d'un autre qui m'est cher. C'est à la sauvegarde de l'autonomie provinciale, il y a celle de l'arme. Et dans la sauvegarde de la défense de l'arme nationale pour les Canadiens français, la langue, selon moi, joue un rôle essentiel. Est-ce que votre gouvernement pourrait, il devrait exiger une réforme générale à tous les échelons de l'enseignement de la langue parlée et écrite?
Et là, vous me posez une question qui m'embête franchement, je vous le dis. Je ne me considère pas un expert en pédagogie. Nous avons dans notre province une formule que je respecte et qui, à mon sens, répond entièrement aux désirs et aux aspirations du peuple de la province de Québec. L'aspect pédagogique relève de deux comités du Conseil de l'instruction publique, le chez les catholiques de langue française et le relève du comité catholique, qui a, à mon sens, accompli une tâche merveilleuse. Qu'il y ait des améliorations, le comité catholique s'en rend compte lui-même, puisqu'il en apporte à chacune de ses séances. Mais je ne prendrai pas sur moi de dicter au comité catholique de l'instruction publique des politiques dans ce domaine-là. Je souhaite, comme vous, que nous puissions donner à la langue française la place qui lui appartient de droit dans notre enseignement. Je pense qu'elle a été bien traitée dans le passé avec les moyens que nous avions à notre disposition. Je pense que le comité est convaincu, comme vous, de la nécessité qu'il y a de rechercher la perfection. Mais je ne me reconnais pas de compétences pour leur donner ni des ordres, ni des directives dans ce domaine.
Monsieur Filion.
On a discuté il y a quelques semaines dans les journaux d'un rapport sur le développement économique de la province du Québec, préparé, je pense, par l'Economic Research Foundation, quelque chose comme ça.
Oui.
Est-ce que le gouvernement de la province du Québec a ou a l'intention de préparer lui-même un rapport qui étudierait l'usage de l'énergie, des ressources énergétiques de la province de Québec et l'usage surtout des ressources naturelles pour savoir si elles servent autant qu'elles le devraient au développement de la population de
mon, la province. Mon collègue, l'honorable Paul Beaulieu, m'informe qu'il y a, à côté de ce rapport que je ne connais pas, dont j'ai entendu parler par les journaux seulement, qu'il y a un rapport qui est en voie de préparation au département de l'industrie et du commerce, qui aurait poursuivi une enquête parallèle à celle de l'Economic Research Corporation. Et on me dit même que cette organisation aurait soumis au département de l'industrie et du commerce le rapport qu'elle entend publier et qu'à l'heure actuelle, les officiers de ce département sont en train de faire les comparaisons dans les données qui se trouvent dans ce rapport-là et celles qui se trouvent dans le résultat de leur enquête. Et dans le domaine des ressources naturelles, le département de l'Industrie du commerce a fait faire cette partie du travail par le département des ressources hydrauliques et par le département des terres et forêts. J'attends avec beaucoup d'intérêt et grande hâte que le rapport de notre département puisse m'être fourni de façon à voir ce qu'il propose, de façon à voir ce qu'il révèle.
Docteur Roy.
Monsieur le Premier ministre, je sais qu'il est une politique d'aide aux étudiants qui vous est chère. Nous avons parlé tout à l'heure d'aide aux universités. Est-ce que vous avez l'intention d'intensifier votre politique d'aide aux étudiants par les prêts et bourses?
Pour vous répondre non, il faudra que je renie les 10 ou 12 dernières années de ma carrière à Québec. Je pense que si l'on considère la courbe ascendante qui s'est établi dans l'aide apportée par le gouvernement de la province aux étudiants de la province, on réalisera que celui qui, pendant 12 ans, a travaillé de toutes ses forces à promouvoir cette aide parce qu'il serait devenu premier ministre ne peut pas avoir changé d'attitude.
Monsieur Filion.
Je ne vous demande pas de commettre d'indiscrétion, monsieur le premier ministre. Par conséquent, je ne vous demande pas s'il y aura des élections prochainement, au printemps, ni quelle sera la date, quelle est la date des élections. Mais en rapport avec les élections qui viendront nécessairement un jour ou l'autre, je voudrais vous poser une question qui, elle, est très sérieuse. C'est celle des dépenses électorales. On sait que les élections ne se font pas avec des prières, ça coûte cher, tout le monde le constate. Est-ce que votre gouvernement envisagerait la possibilité ou bien d'essayer de limiter les dépenses électorales des partis et des candidats? Ou bien de faire supporter par l'État une partie des dépenses électorales, de façon à ce que ceux qui ont des idées, qui n'ont pas d'argent, puissent faire valoir leurs idées au même titre que ceux qui ont de l'argent et qui ont aussi des idées, je l'espère.
Bien, il y a déjà une partie des dépenses électorales qui est supportée par la province. Toute la partie mécanisme, oh, je sais qu'on parle de machine électorale. Mais il y a la machine électorale dans le sens officiel. Il y a les dépenses qui résultent de l'engagement des officiers rapporteurs, des présidents d'élection, des greffiers, etc., location des locaux, engagement de constables, etc., etc. C'est déjà une dépense très considérable. Je vous avoue que je n'ai pas pensé plus loin que cela pour le moment. Vous avez parlé de la possibilité d'élection. J'aurais fait une malice si vous m'aviez demandé la date. J'aurais voulu savoir pour qui vous vouliez le savoir. Mais comme vous ne l'avez pas demandé, je ne la fais pas, cette malice-là. Je n'ai pas pensé encore à faire financer par le gouvernement les dépenses des partis politiques. Je pense bien qu'il peut se passer encore pas mal de temps avant que j'y pense. Maintenant, quant à la machine électorale, mais mon Dieu, je suis pas mal sceptique sur cette question-là. J'ai représenté pendant plusieurs années un comté rural. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait une organisation formidable de partis. Je ne l'ai jamais vu à l'œuvre dans mon comté. Et quand au cours de certaines élections, le comité d'organisation de Montréal a menacé d'envoyer des organisateurs dans mon comté, mes électeurs ont été les premiers à me dire qu'ils n'en voulaient pas, et j'ai été le premier à les seconder.
Dans votre programme législatif pour la prochaine session, M. Sauvé, est-ce que vous envisagez des changements à la loi électorale?
Peut-être.
Merci.
Vous comprendrez que je n'ai pas, dans le mois et demi pendant lequel j'ai exercé les fonctions de premier ministre, eu le temps d'entrevoir toutes les possibilités dans tous les domaines. Il y avait des choses urgentes et il a fallu classer un petit peu les problèmes par ordre de priorité.
Y aurait-il un remaniement ministériel?
J'ai bien l'impression que si nous attendons assez longtemps, il y en aura un.
Monsieur le Premier ministre, on a fait courir le bruit que votre gouvernement s'apprêtait à créer un ministère de l'information, ce qui a été nié, je crois. Mais est-ce qu'un service de l'information du Québec a fait de mieux faire connaître le Québec au Québec lui-même, ensuite au Canada français, puis aux Anglo-Canadiens du reste du pays, et ensuite à l'étranger, ne serait pas utile?
J'ai nommé il y a quelque temps M. Robert Prévost à une fonction qui porte une nouvelle désignation. Je l'ai nommé chef de l'information. J'espère qu'on prendra ce titre-là dans, dans le sens, dans le meilleur sens possible et non pas dans un sens péjoratif. L'intention que j'avais à ce moment-là, c'est de mettre à la disposition des agences de nouvelles, de la presse, de la radio, de la TV, toutes les facilités possibles pour qu'ils puissent obtenir d'abord l'information sur ce que font les gouvernants à Québec pour pouvoir le transmettre au peuple, somme toute, qui est le premier intéressé. Et je l'ai nommé en même temps directeur de l'Office de publicité, qui comporte aussi la section de cinématographie. Je sais qu'il est très actif. Je serais bien désappointé s'il n'entreprenait pas de rajeunir un petit peu cet office-là et de lui faire jouer tout le rôle qu'il peut jouer dans le meilleur intérêt de la province. Et cela comprend les points que vous avez soulevés tantôt.
Monsieur Fillion?
Les hommes publics dans la province de Québec se sont mis à écrire ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'intention, vous aussi, de publier un livre?
J'ai, en badinant l'autre soir, je ne veux pas nommer personne, j'ai en badinant l'autre soir demandé à un confrère qui se trouve assez près de certaines organisations adversaires s'il croyait que je devais publier. Il y a déjà eu, mon Dieu, je pense, Jean Drapeau vous parle, Jean Lesage s'engage. Et je lui ai dit, s'il me prenait envie de publier, d'abord, est-ce que vous me conseilleriez de le faire? Et puis, si oui, quel serait le titre de cette publication que vous pourriez me suggérer? Il s'est mis à sourire, et il paraît un peu gêné, puis il m'a dit, « Ben, mon Dieu, vous pourriez peut-être le faire, puis je pense que dans les circonstances, le titre tout trouvé, ça serait sauf qui peut. »
Merci, M. le Premier ministre, sur ce mot de la fin. Merci, Dr. Roy. Merci, M. Fillion. Merci, M. Leroux. À vous, Roland Piquette.
Nous aimerions connaître vos impressions et recevoir de vous des suggestions pour des sujets d'émission tirés de l'actualité. Notre adresse... Tribune Libre, case postale 6000, Radio-Canada, Montréal. La semaine prochaine, deux tables rondes. L'une sur l'habitation unifamiliale à prix modique, l'autre sur la restriction du crédit. J'espère que vous serez des nôtres.
Ici Radio-Canada.
C'est un geste romantique que celui de jeter de la monnaie dans la fontaine, en gage d'un avenir propice, une maison bien à soi, l'instruction universitaire des enfants, une retraite heureuse. Mais il est une façon plus certaine d'obtenir ce que vous désirez. Épargner davantage, posséder davantage, réaliser davantage avec les nouvelles obligations d'épargne du Canada, meilleures que jamais, puisqu'elles rapportent plus que jamais. Et rappelez-vous que vous pouvez encaisser vos obligations d'épargne en tout temps à leur pleine valeur avec intérêt. Il suffit de les présenter à n'importe quelle banque pour obtenir son argent. Les nouvelles obligations d'épargne sont comme des billets de banque avec coupons d'intérêt. Et il est si facile de les acheter à tempérament. En répartissant les paiements sur un an, chaque obligation de 100$ vous coûte environ 29 cents par jour. Signez votre demande immédiatement et préparez-vous un avenir prospère avec les obligations d'épargne du Canada. Prenez-en ma parole, leur rendement est meilleur que jamais.